Bonsoir. L'ancien chef des services des renseignements de la RDC a été interpellé hier à l'aéroport d'Ndjila-Kinshasa par les agents de la Direction Générale des Migrations DGM en sigle, alors qu'il revenait d'un voyage. Il a été amené dans les installations de l'Agence Nationale des Renseignements ANER en sigle. Selon certaines sources, le passeport diplomatique tenu par M. Kalev a été confisqué. Il y a quelques semaines, certaines personnalités membres du Front commun pour le Congo FCC avaient été interpellées par les agents de la DGM à l'aéroport d'Ndjili parce que détenant des passeports diplomatiques sans en avoir la qualité. Quelle analyse faire de ces interpellations et que prévoit la loi congolaise au sujet de la détention du passeport diplomatique? C'est l'objet du débat de ce soir et dans cette émission. Nous recevons André Alain Atundu Diongo, il est ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle. Il est actuellement le communicateur attitré du Front commun pour le Congo FCC, ancien ambassadeur du Rwanda et ancien diplomate plutôt à Paris. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu Diongo.
Bonsoir.
Professeur Jean-Claude Tchilumbay, il est avocat, il est aussi professeur des droits internationaux, il est député provincial et cadre de l'UDPS, c'est parti membre de la coalition au pouvoir. Bonsoir, professeur Jean-Claude Tchilumbay.
Bonsoir,
de Radio Capi. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba. Voilà, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Affaire interpellation de l'ancien patron de l'ANER, tel que relayé par plusieurs sources, le concerné Kalev Mutondo dit être libre et chez lui à son domicile. C'est ce que l'intéressé nous a déclaré cette matinée au téléphone. Interpellé hier mercredi avant d'être relâché dans la soirée par l'Agence nationale des renseignements, Kalev revenait d'un voyage lorsqu'il a été intercepté par les agents de la DGM à l'aéroport international d'Ndjili et amené dans les installations de l'ANER. On écoute ici, joint au téléphone par Geoff Ngoï.
Oui, bonjour, mon ami.
C'est juste savoir...
Vous m'avez entendu en train de parler aux neveux et autres sur l'organisation à mettre sur pied pour l'intermarché. Donc, permettez que je termine tout ça.
Donc, vous êtes en liberté, c'est ça?
Avec la famille, je vous appelle sans faute.
Vous êtes en liberté?
Je suis chez moi à la maison. Je suis chez moi à la maison en train d'organiser l'enterrement de mon beau-frère.
On ne vous a pas ravi les passeports?
Je devais aller à une rencontre. J'ai demandé comme excuse que je termine l'organisation des funérailles.
On ne vous a pas ravi votre passeport?
Je suis chez moi à la maison.
Avec mon votre passeport?
Ok, excellente journée.
Professeur Jean-Claude Tchilumbay, professeur des relations internationales, vous êtes aussi avocat et député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de la coalition au pouvoir. Comment vous analysez cette série d'interpellations?
C'est des interpellations réalisées par des services de la République, des services qui travaillent selon certains principes et selon une certaine pratique. Je crois que si ça n'a pas été mis à la place publique, toutes les réponses que les gens peuvent donner à ce jour relèvent de ce qu'ils ont entendu plutôt de la presse que vous êtes. Et c'est pour vous dire que officiellement, lorsque on parle de détention de faux passeports, c'est bien un motif d'interpellation. Surtout qu'il s'agit de passeports officiels.
Voilà, des interpellations qui sont faites par, comme vous venez de le dire, par des services publics. Mais le constat qui est fait, est-ce qu'on ne communique pas sur, n'est-ce pas, les griefs qui sont formulés contre les personnalités interpellées? Et du coup, c'est la spéculation, c'est la rumeur qui prend place. À votre avis, pourquoi on garde l'émitisme alors que les personnes qui sont mises en cause ne sont pas des citoyens ordinaires?
Non, c'est des citoyens ordinaires. Je sais que la première fois...
Nous avons parmi ces personnalités des parlementaires, n'est-ce pas? On a parmi ces personnalités un ancien candidat à la présidentielle, présidente de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, un ancien gouverneur, et puis les patrons, n'est-ce pas, des services des renseignements, l'ancien patron des services des renseignements, ce ne sont pas des personnes
Des anciens, c'est des citoyens comme vous et moi, c'est clair, ils n'ont aucun privilège particulier dans dans la société.
Pourquoi on garde le mimétisme? Pourquoi on ne dit rien?
Le travail que les services réalisent, c'est leur méthode, parce que nous savons que lorsqu'arrivera le moment que ces instructions évoluent et que les cours et tribunaux en soient par exemple saisis, nous serons formellement informés. Lui-même, Kalev Mutonda, travaillait dans cette boîte. Il sait que c'est pas une boîte qui travaille à ciel ouvert. Je ne vois pas pourquoi on parlerait du mimétisme. Mais ici, moi, je suis en train plutôt de voir ce que nous avons appris, ce qui a été dit de manière plus ou moins publique par la presse que vous êtes. C'est l'affaire de passeport, donc des faux titres de voyage, parce que ces passeports diplomatiques, en ce que je sache, sont réglementés dans notre pays et cette réglementation dépend ou se conforme à la réglementation internationale qui prévoit en l'occurrence qu'il ne soit détenu que par une catégorie de personnes déterminées. Et qu'en ce qui concerne par exemple les députés, ils en sont détenteurs bien évidemment, mais les anciens députés n'ont pas qualité de détenir des passeports diplomatiques. C'est le cas avec l'ancien gouverneur, c'est le cas avec l'ancien AG de l'ANR. Parce que
mais il y a quand même des députés, il y a des députés parmi ces personnalités, des députés qui sont encore députés aujourd'hui, qui siègent à l'Assemblée nationale, mais qui ont été interpellés pour les mêmes raisons.
Je ne crois pas que ce soit pour les mêmes raisons. Je ne connais pas un député qui a été interpellé pour détention du passeport diplomatique. Aussi, il faut rajouter que les passeports diplomatiques, comme tout autre passeport officiel, le fait de le détenir ne signifie pas qu'on a le droit de se promener avec comme on veut. Il doit s'accompagner d'un ordre d'émission parce que c'est un passeport officiel. C'est pas un passeport sur lequel on a posé un visa pour aller acheter des habits en Chine, non. Il faut que même lorsqu'on le détient, qu'on l'utilise conformément à la réglementation existante. Voilà un peu.
Voilà. Au-delà de la raison, vous l'avez rappelé ici, la raison qui a été avancée par certains médias, détention illégale du passeport. Au-delà de cette raison, est-ce que on ne peut pas parler d'un règlement des comptes?
Non. Il n'y a pas règlement des comptes. Écoutez, lorsque vous parlez de règlement des comptes, c'est comme ces gens. Parfois, il y a des gens qui veulent seulement un peu faire parler d'eux dans la société. C'est pas ça qui est important. À mon avis, le fait est là, il est clair. Quand bien même on serait détenteur officiel de ce passeport, j'ai dit qu'il y a des règles à suivre pour l'utiliser. De gens qui partent d'ici avec un passeport officiel alors qu'ils n'ont pas qualité de le détenir. Et c'est aussi, il faut interpeller les ambassades qui se sont donné le luxe d'apposer des visas sur ces passeports détenus par des personnes qui n'en ont pas qualité. Ça, c'est déjà un problème. Moi, je crois que au-delà du fait qu'on détient un passeport frauduleux, on l'utilise, mais qu'on a réussi à obtenir des visas sur un faux passeport, c'est un problème. Et le soupçon peut bien s'étendre à tant d'autres réalités.
Voilà. Vous dites qu'il n'y a pas de règlement des comptes, mais vous n'allez pas nous dire ici qu'il n'y a que des personnalités faisant partie d'une même famille politique qui détiendraient, n'est-ce pas, des passeports diplomatiques de façon illégale.
Non, mais c'est eux qui détiennent ce passeport illégal. Pour quelles raisons ils les détiennent? Parce que eux qui ont administré le pays, et pendant ce temps-là, il y en a qui avaient le droit de les détenir. Moi, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas le droit de détenir les passeports officiels. Maintenant qu'ils n'exercent plus ces fonctions, c'est clair qu'il faut savoir que le passeport est une propriété. Lorsque vous lisez dans tous les passeports, il est indiqué que le passeport est une propriété de l'État congolais. Et davantage, le passeport officiel, c'est une propriété de l'État congolais. Lorsque vous avez exercé vos fonctions en vertu desquelles vous l'avez détenu et que ces fonctions ont pris fin, vous avez, comme être civilisé, l'obligation de retourner son passeport à l'État congolais qui en est le propriétaire. Parce que les visas qui ont été apposés avec lesquels vous avez voyagé ne vous ont pas été délivrés en votre qualité d'individu. Chadari ou Kalev, on vous les a délivrés parce que vous alliez en mission officielle autant que vous déteniez ces passeports pour cette raison-là. Et nous tous, moi je suis un détenteur de passeport officiel, j'ai mon passeport ordinaire. Lorsque je vais dans mes affaires privées à l'étranger, j'utilise mon passeport ordinaire. Je ne vais pas prendre mon passeport officiel pour aller y faire apposer de visa alors que je vais dans mes affaires privées à l'étranger. Il est certes vrai que certains détenteurs de ces passeports qui les ont comme privilège. C'est le cas du chef d'État, son épouse en l'occurrence, en vertu de la loi sur les anciens chefs d'État, peuvent les utiliser et il y a des conditions de cette utilisation. C'est pas des passeports avec lesquels on va tenir des réunions à Addis-Abeba, au Burundi, comme on veut et quand on veut. On se balade avec ça, cette façon-là, c'est pas ça.
Et professeur Tchoumbaï, vous êtes professeur des droits, et parmi ces personnalités, il y a des parlementaires, n'est-ce pas, couverts par certaines immunités. Est-ce que il ne va pas se poser un problème des droits dès lors que ces gens ont été interpellés dans les conditions que tout le monde connaît?
De toutes ces personnes que vous avez citées, il est sorti de votre bouche l'unique nom d'un parlementaire, c'est l'honorable Jeannette Kabila.
Il y a aussi l'honorable Chadari, il est parlementaire,
il n'est pas député.
Ah, vous me l'apprenez, hein.
Il n'est pas député, c'est un ancien candidat à la présidence de la République. C'est vrai, de mémoire, il a été député, et pour le moment, il ne l'est pas. C'est pas en vertu de cette qualité qu'il s'est baladé avec le passeport officiel, non. Il est allé avec le passeport, et lui-même, il aurait dit, en sa qualité d'ancien ministre de l'intérieur. Lorsque vous lisez le décret du premier ministre Mouzoutou, qui a été d'ailleurs contresigné par le ministre Alexis Thambouamba, il énumère limitativement des personnes détentrices de ce passeport.
Évidemment, ça va faire l'objet.
On ne trouve pas les anciens candidats présidents.
Ça fait l'objet de la deuxième partie de cette émission. André Alain Atundu Liongo, ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle, vous êtes actuellement les communicateurs attitrés du Front commun pour le Congo FCC. Vous êtes ancien ambassadeur au Rwanda et ancien diplomate à Paris. Comment vous comprenez cette série d'interpellations?
Il faut les situer dans leur contexte, mais je crois, pour éviter confusion, il faut préciser que la détention d'un passeport peut être le fait d'un droit constitutionnel ou le fait d'un acte de souveraineté. Le détenteur d'un droit constitutionnel sont cités dans la Constitution. Elle, exerçant telle fonction, peut avoir un passeport diplomatique. Mais les possesseurs, en vertu du droit de souveraineté, reconnu notamment au chef de l'État, au ministre des Affaires étrangères, aux responsables de services, disons aujourd'hui, de la mer, ceux-là ne sont pas cités, parce que leur délivrance dépend de la raison que l'on estime discrétionnaire par les détenteurs ou les personnes qui peuvent le délivrer. Et donc, il faut faire la part des choses entre le droit constitutionnel et sa pratique politique. Deuxièmement, quel est le sort des anciens détenteurs de passeports dont ils n'ont plus droit, en principe? Lorsqu'on n'a plus droit, soit on remet, soit le service annule, n'est-ce pas? Tel n'ont plus droit. Et donc, on le leur signifie. Si, en tout état de cause, on ne l'a pas fait, eh bien, les inscriptions dans le passeport font foi jusqu'à inscription à faux, c'est-à-dire, il faut traiter les personnes détentrices d'un passeport diplomatique avec le titre qu'ils ont en fonction de ce titre, puisque c'est la forme qui importe. Donc, mais malheureusement, on peut aussi connaître des cas de détournement de procédure. Les gens qui, pour une raison ou une autre, sont plus poussés par des raisons de règlement de compte, comme l'a dit quelqu'un, ou d'humiliation, et de beaucoup d'autres raisons, pas toujours les plus nobles. Mais je pense que, pour l'essentiel, je crois que ces arrestations ou ces interpellations, s'ils ont comme fondement la détention d'un passeport dont ils n'auraient pas le droit de détenir, je crois qu'on pourrait faire montre de peu plus de convivialité. D'autant plus qu'il s'agit en général des personnes qui ne sont pas des citoyens ordinaires, contrairement à ce que a dit mon frère.
Tchoumbaï, professeur Tchoumbaï.
Ah oui, le professeur, excusez-moi, le professeur Tchoumbaï. Non, un ancien candidat président de la République n'est pas n'importe qui. Un ancien administrateur de la mer n'est pas n'importe qui, un ancien ambassadeur n'est pas n'importe qui, un ancien ministre n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi ces gens-là peuvent bénéficier d'un acte de souveraineté pour utiliser ce genre de passeport. Mais il faut juger cas par cas et éviter une expansion médiatique inutile, alors qu'il n'y a pas un problème important de fond, eh bien, on voudrait en faire un casus belli.
Voilà, compte tenu des anciens statuts de ces personnalités, vous avez dit que les interpellations devaient se faire de façon conviviale. Vous pensez que c'est de manière brutale que ces interpellations ont été faites?
Non, je ne sais pas. Mais lorsque on interpelle un député en fonction, président d'une commission par ailleurs, on le sort de l'aéroport à cause de son passeport, d'après ce que j'ai entendu là, mais je crois que c'était un incident qu'on aurait pu éviter et le lui signaler en disant « Madame, vous partez, mais quand vous revenez, soit vous remettez, soit nous annulons. » Donc, je pense qu'il faut vraiment faire montre de beaucoup d'humanité dans la pratique diplomatique.
Oui, qui voyez-vous derrière ces interpellations? Est-ce que c'est les partenaires de Cash ou les services publics qui font normalement leur travail?
Moi, ce sont les services publics qui font leur travail. Ici, j'explique pour éviter des interprétations erronées. Le service public a le droit d'interpeller n'importe qui pour la détention d'un passeport. Et d'ailleurs, vous le savez, un État peut retirer le bénéfice d'un passeport diplomatique ou de service, ou même du passeport ordinaire, à qui il veut. Je vous dis, c'est un acte de souveraineté.
Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter, n'est-ce pas, ces interpellations comme un fonctionnement normal des services publics de la RDC?
Oui, je vous dis que c'est normal. Le service peut interpeller n'importe qui. Quelqu'un qui entre, on l'interpelle. Je me souviens, si vous me permettez, du temps en 1976 ou 1975, le nommé Eddy Diora, qui était un collègue d'université et qui était de service, avait interpellé Madame Zouzoua Mbombo et l'a descendue de l'aéroport de l'avion. Ce n'était pas apprécié parce que la manière n'y était pas. Donc il faut toujours mettre de la manière. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Ils peuvent revenir. Et dans tous les cas, l'État, la nation, leur doit considération pour ce qu'ils ont été. Ils ont été leurs représentants.
Alors, on n'a pas senti des réactions, n'est-ce pas, de la part du FCC. Et ces manques de réactions de la part de votre famille politique, comment on peut les considérer une façon pour vous de prendre acte de ces interpellations ou plutôt un moyen, n'est-ce pas, d'éviter de provoquer un incident avec les partenaires de Cash?
Pour vous, je ne suis pas du FCC. Je suis du FCC, je réagis.
Ah oui, mais vous réagissez après combien de jours?
Dites-moi la disposition constitutionnelle ou légale qui dit qu'il faut réagir après autant d'heures.
Voilà. Est-ce que c'est M. Kalev, M. Chadari, M. Chichambo ou Mme Janet Kabila qui ont été interpellés ou il s'agit des citoyens, comme tout autre citoyen, n'est-ce pas, qui détenaient illégalement un document officiel?
Bon, je crois qu'il faut employer des mots illégalement, je ne sais pas. Mais je vous dis ceci, les services ont le privilège d'interpeller n'importe qui. Et en toute hypothèse, même le chef de l'État. Les services peuvent l'interpeller en disant non, voilà. Mais il faut le faire en sauvegardant l'essentiel. Si le chef de l'État est dans un État où il ne peut pas voyager, vous n'allez pas l'interpeller au bord de l'avion. Ça risque de créer des problèmes de dimension nationale.
Merci.
Vous allez le prévenir courtoisement en disant « Monsieur le Président, s'il vous plaît, veuillez ne pas voyager pour telle raison ou telle autre. »
Merci. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Yerong.
C'est Guy Maté. Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Votre lecture par rapport à ces interpellations?
D'accord. Mais il faut d'abord se remettre dans le contexte. Donc, normalement, la détention, les conventions, en fait, le fait d'avoir des passeports diplomatiques est régi par, vous devez savoir, par des conventions internationales. C'est-à-dire que ce sont des règles de diplomatie internationale qui ont été éditées et sur lesquelles la plupart des pays ont adhéré. C'est-à-dire qu'on essaye, dans la mesure du possible, de pouvoir permettre à des représentants des États d'aller dans des pays étrangers et de pouvoir y bénéficier non seulement d'une aide, mais aussi d'une protection, mais aussi d'une certaine facilité dans le cadre de la représentation d'un État. Donc il y a cette dimension-là qui existe. Ça veut dire qu'au sommet d'eau, dans les conventions internationales, normalement, on a droit que ceux qui vont peuvent représenter un État, parler au nom de l'État à l'étranger, et c'est pour ça qu'on leur donne ce privilège de pouvoir bénéficier d'un titre, d'un document qui les distingue, en fait, des autres documents. Mais alors, ce droit et ces conventions et ces droits qui sont reconnus à ces personnes-là sont étendus, peuvent être étendus à d'autres catégories de personnes ou voire d'autres catégories de profession. Et ça dépend effectivement d'un État à un autre qui décide qui peut bénéficier de ce droit de pouvoir avoir un document de passeport diplomatique. Alors, dans le cas du Congo, dans le cas d'espèce, de ce que j'ai pu lire dans la législation congolaise, c'est qu'il ressort qu'il y a une disposition, effectivement, de 2009, qui a été prise par le ministre Mozito, pour qui étend, effectivement, la possibilité de la détention de ce document à plusieurs catégories de personnes qui peuvent parler, donc, au nom du Congo à l'international. Et dans ces catégories, il y a, bien sûr, le président de la République, etc., toute une série de listes. Je pense qu'il y a 45 catégories de personnes qui sont concernées et qui peuvent bénéficier donc de ce droit. Et c'est bien spécifique que c'est un document que l'on donne dans le cadre des fonctions que l'on doit, que l'on exerce, et que ce document est un document qui permet justement à la personne qui a une fonction particulière de pouvoir aller parler au nom d'un autre État à l'étranger. Et donc, si la personne qui avait, à un moment donné, cette fonction qui lui permettait de pouvoir bénéficier de ce passeport, et lorsqu'il n'est plus en fonction, la loi est très claire, le décret est très clair, c'est-à-dire, grosso modo, soit on annule, effectivement, le passeport en question, soit, effectivement, on le rend à l'État, puisque c'est un document qui appartient à l'État qui l'édite. Et donc, dans les cas d'espèce. Maintenant, ici, dans le cas, par rapport au cas que vous nous soumettez, effectivement, en regardant les différentes personnes qui ont été interpellées, c'est-à-dire l'ancien gouverneur Tshishambo, quand il était gouverneur, effectivement, il avait droit à avoir un passeport diplomatique. N'étant plus gouverneur, son passeport diplomatique doit être soit annulé, soit rendu à l'État congolais. Pour le cas de l'ancien DG de l'ANR, c'est la même chose. C'est-à-dire, comme il a été DG de l'ANR, patron de l'ANR, il avait effectivement droit de pouvoir bénéficier de ce passeport. Et dès qu'il n'est plus chef de l'ANR, le passeport doit être soit annulé, soit rendu au ministère des Affaires étrangères. Et pour le cas de l'honorable Jeannette Kabila, je pense que là, elle est députée nationale et dans la liste, parmi les 45 catégories de professions que je vous ai citées, il y a effectivement les faits de cas députée nationale peut avoir effectivement un passeport diplomatique. Et alors, ça ne veut pas dire non plus que le passeport diplomatique sert à tout moment et à tout vent. Non, le passeport diplomatique fait essentiellement dans des cadres bien précis dans lesquels on doit avoir une mission clairement qui est identifiée pour pouvoir bénéficier, pouvoir partir ou utiliser ce passeport. Alors si on doit faire par exemple aller en vacances, n'importe où dans le monde, chacun peut aller en vacances, chacun peut faire un peu toute une série d'activités en dehors de ses fonctions. Alors là, de manière très claire, il faut utiliser le passeport ordinaire pour faire la part des choses entre, d'une part, un mandat officiel, un exercice officiel au nom de l'État, et d'autre part, le fait de voyager pour son propre compte. Ça, on va dire, grosso modo, c'est la théorie de manière générale. Mais alors, dans ce cas, est-ce que la question que l'on peut se poser et qui mérite d'être posée, c'est-à-dire que dans le contexte actuel, je crois que ça aurait été beaucoup plus simple que ces différents services concernés puissent faire un communiqué et demander à toutes les personnes qui sont détenteurs des passeports diplomatiques et qui n'ont plus le droit de pouvoir détenir ces passeports, de pouvoir les rendre aux affaires étrangères ou de les déclarer annulés. Ça aura comme avantage de pouvoir clarifier, ça aura comme avantage de pouvoir éviter à toute une série de personnes de se retrouver dans des situations de difficulté pour simplement le fait de détenir un passeport alors qu'on n'a pas droit de pouvoir avoir ce passeport. Je pense aussi que c'est une question de pédagogie et question aussi d'éviter des conflits inutiles, surtout de réanimer le conflit latent et qui existe pour le moment, et que c'est des faits qui ne font que rajouter des difficultés de cohabitation, des difficultés de gestion et de pacification du pays. Et donc une annonce, un communiqué clair des différents services pour demander à tous ceux qui ont des passeports diplomatiques qui n'ont pas droit de pouvoir les ramener ou bien de pouvoir les déclarer annulés.
Oui, donc vous voulez dire par là que si les services publics auraient bien fait leur travail en amont, on aurait évité ces interpellations dont on parle aujourd'hui.
Oui, on aurait évité ces interpellations puisque ce ne sont pas, j'imagine qu'il n'y a pas que ces catégories de personnes, que c'est quelques personnes dont on parle qui sont détenteurs de passeports diplomatiques. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens qui ont occupé des fonctions pendant plusieurs années, qui détiennent des passeports diplomatiques et qui n'ont plus les mêmes fonctions. Je crois qu'il est plus sain, qu'il est plus facile, il est même, c'est une question de bon sens, que ces différentes personnes rendent ces passeports et de cette façon-là, s'évite de pouvoir arriver à connaître les mêmes aventures que d'autres. Je peux vous donner par exemple un exemple quand on regarde la liste des personnes qui ont droit à ces passeports. Vous allez vous rendre compte que par exemple on parle des anciens ministres, on parle des conseillers principaux, des chefs de l'État, on parle des conseillers de la prémature. Ce sont des gens qui, au moment où ils sont en fonction, ont effectivement un passeport diplomatique. Merci. Mais lorsqu'ils ne sont plus en fonction, bah, ils doivent rendre ces passeports diplomatiques-là. Parce que vous avez aussi des DIRCAB de ministère.
Nous allons y revenir dans la deuxième partie de l'émission.
Qui ont des passeports diplomatiques. Or, ils ne sont plus, ils n'exercent plus ces fonctions.
Merci.
Ce serait plus simple et plus sain de pouvoir, de manière claire, juridiquement et aussi administrativement, de pouvoir rendre ces passeports ou les déclarer nuls.
Merci, professeur Jean-Claude Chilumbay. Vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Kinshasa.
Je m'appelle Monsieur Charles Kapoukou, je suis dans la commune de Ndjili. C'est un manque d'organisation de la DGM. Une fois que le régime se voit sans mandat, il faut que la DGM interpelle les ténors du régime afin de déposer les passeports diplomatiques.
Et là, il rejoint les propos du professeur Bob Kabamba.
Oui, le professeur Bob Kabamba a raison, mais ce n'est pas. Lorsque nous obtenons ces passeports officiels aux affaires étrangères, on nous les accorde de manière très privilégiée et nous sommes informés de leur utilisation. Ça, c'est un principe. On n'a pas besoin d'un communiqué en amont ou en aval pour dire que vous n'avez plus besoin d'utiliser le passeport officiel. Vous êtes des grands privilégiés lorsque vous allez les recevoir. On vous les remet parfois en une journée dans des conditions de célérité telles et on vous informe des modalités de leur utilisation. Les anciens ministres dont le professeur parle dans le décret 9/10 du 30 mars 2009, merci, c'est seulement les ministres des Affaires étrangères et les ministres de coopération internationale. Tous les autres anciens ministres n'ont pas droit de détenir le passeport diplomatique à la fin de leur mandat. Et même alors, j'insiste, les missions diplomatiques n'apposent pas de visa sur un passeport officiel lorsqu'il n'est pas accompagné d'un ordre de mission. C'est en quelque sorte vous dire que si nous restons sérieux, même l'ancien chef d'État, lorsqu'il devra voyager avec le passeport diplomatique, lui est acquis comme un privilège, il devra recourir à qui des droits pour lui fournir un ordre de mission avec lequel il va voyager pour que les missions diplomatiques considèrent ce passeport afin d'y apposer un visa. À partir du moment qu'il est constaté que quelqu'un, un ancien responsable de l'État, n'ayant plus droit de détenir son passeport, a effectué des longues missions à l'étranger avec des visas dans un passeport illégal, c'est bien qu'au-delà de la simple détention d'un passeport illégal, il y a beaucoup d'interrogations à se poser.
Et en droit, comment on peut appeler ça, usage de faux?
C'est un usage de faux.
Donc une infraction.
C'est un usage de faux. Alors, de cette façon-là, vous verrez que même s'ils sont anciens pour voyager, pour qu'une mission diplomatique admette d'apposer un visa sur son passeport, elle a besoin d'un ordre de mission. C'est une conditionnalité
ordre d'émission ou autorisation de sortie. C'est une condition d'entrée. Donc, on n'a pas besoin qu'un communiqué soit fait pour dire que ses passeports sont annulés ou comment. L'ambassadeur André...
Et vous pensez que dans les cas d'espèce, vous pensez que les services publics ont bien fait leur travail?
Je crois que les services publics ont bien fait leur travail, d'autant plus que pour le cas de Kalev Moutonde, hier, on a semblé dire que ce passeport mentionnait qu'il était conseiller du Premier ministre. Et lorsqu'on est conseiller du Premier ministre, on doit avoir un ordre de mission pour voyager avec un passeport officiel si on est conseiller du Premier ministre et qu'on a droit de tenir un tel passeport. Il faut avoir un ordre de mission. Donc, les services ont fait professionnellement leur travail pour préserver la souveraineté dont l'ambassadeur André a parlé ici. Non, le chef de l'État lui-même n'est pas détenteur d'un passeport diplomatique en vertu d'un principe quelconque de souveraineté. Non. Chez nous, en République démocratique du Congo, le chef de l'État, il est détenteur d'un passeport diplomatique en vertu des lois. Et plus précisément, les deux lois que nous venions de citer ici, d'abord le décret du Premier ministre et puis la loi sur les anciens présidents. Merci. Qui prévoit en son article 4 la possibilité que le chef de l'État, parmi les avantages, lui et son épouse, ont droit à un passeport diplomatique. Et lorsque vous êtes dans la liste que le professeur Kabamba a énumérée ici des 46 catégories bénéficiaires de passeport diplomatique, vous verrez que en ligne ou en tête de ligne, c'est le président de la République. C'est-à-dire qu'il détient ce passeport lui-même en vertu de la réglementation en vigueur, pas en vertu d'un principe comme ça, vaille que vaille.
Merci.
Et lorsque vous lisez en dehors de cela, il faut dire que, le prof Kabamba l'a dit ici, les passeports diplomatiques, c'est d'abord une réglementation internationale qui les a suggérés, et que lorsque vous lisez même cette limitation, c'est vrai, le chef de l'État aujourd'hui a droit de conférer la qualité à qui il veut. S'il envoie quelqu'un en mission, il peut vous prendre vous, il vous envoie en mission, il vous confère une qualité qui vous donne accès au passeport diplomatique sans que forcément vous soyez dans la liste limitativement énumérée par le Premier ministre.
Merci.
Ce qui est important, c'est de dire qu'on ne va pas voyager avec un passeport officiel de manière clandestine. Ça, c'est faux.
Merci. Monsieur l'ambassadeur André Alain Tundou, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de, une fois de plus, de Kinshasa.
Gracie Mongo Manzongo Leite depuis Kinshasa. Je pense que ces interpellations aussi multiples veulent essentiellement signaler aux hommes de confiance de l'ancien régime que les choses ont changé. Et c'est une autre personne qui est aux commandes, car il est pratiquement difficile pour les amis du chef de l'État précédent d'avouer et de comprendre qu'ils sont pour le moment de simples partenaires avec le pouvoir en place. Ils agissent en rejetant même les lois du pays, prétextant être sous la protection de leur mentor et leur accord qui constitue leur protection ultime. Ce qui provoque ou crée finalement aujourd'hui cette dissonance de la gestion du pays.
Monsieur l'ambassadeur André Alain Tundou.
Oui, c'est un cas, ces propos de notre d'un malentendu regrettable. Les faits infractionnels sont individuels. Le président Kabila n'est pas à la tête d'un syndicat de crimes chargé de protéger ses amis, d'agir contre la loi. Je dois le rappeler que chaque fois qu'il réunit ses principaux partenaires politiques, il leur rappelle l'obligation de respecter la loi et d'accompagner le président Tshisekedi dans sa mission conformément aux accords conclus à cet effet. Alors, pour voyager avec un passeport diplomatique, on n'a pas besoin d'un ordre de mission. On a besoin d'une note verbale, c'est-à-dire une note par laquelle les affaires étrangères se portent garant auprès d'une ambassade donnée pour solliciter un visa en lieu et place du détenteur.
Alors, parce que vous en parlez déjà, professeur, et plutôt, monsieur l'ambassadeur, on passe à la deuxième question. Que prévoit la loi congolaise au sujet de la détention du passeport diplomatique?
Je vous ai dit, je crois que les deux professeurs qui m'ont précédé l'ont rappelé. Ce sont les personnes citées. Mais non, parmi les personnes citées, il y a des personnes qui sont détentrices d'un droit discrétionnaire. Je vous dis que le chef de l'État peut. J'ai donné l'exemple, j'avais donné il y a quelque temps l'exemple du président Mobutu qui a demandé à son ambassade à Paris de délivrer un passeport diplomatique à un sujet iranien. Bon, moi-même, lorsque j'étais dans les services, j'ai délivré un passeport diplomatique au général Kikunda pour pouvoir effectuer une mission en Afrique du Sud avec un nom d'emprunt, etc. Donc ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas mentionnées dans la loi, mais ce sont des pratiques, des actes de souveraineté qui appartiennent au président de la République, au ministre des Affaires étrangères et au service. Donc, je crois qu'il y a l'aspect politique et l'aspect, on va dire, juridique. Donc, c'est ce problème-là. Mais je pense que la solution à cet imbroglio est suggérée et proposée opportunément et pertinemment bien par le professeur Kabamba. On fait un communiqué officiel pour rappeler, pour éviter de malentendus. Parce que le cas de l'honorable Jeannette Kabila pose problème. Si elle n'a été interpellée que parce que détentrice d'un passeport diplomatique, elle en a le droit, que Dieu, bon Dieu, elle en a le droit. Donc, il faut éviter ce qu'on appelle en droit un détournement de procédure, c'est-à-dire mettre une connotation personnelle à travers une procédure apparemment normale.
Merci. Merci. Professeur Bob Kabamba, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Guémena.
C'est Jérémy Irengue, j'appelle depuis Guémena. Si c'est pour le respect de la loi, bravo, et si seulement c'est pour le règlement des comptes, désolé. Pourquoi avoir attendu le retour alors qu'il a voyagé avec le même passeport? Les autorités compétentes devraient en de toutes les façons dresser la liste des personnalités ayant le passeport diplomatique et leur notifier de leur invalidité et les récupérer de la circulation pour les cas précis.
Oui, professeur Bob Kabamba.
Oui, merci. C'est une très bonne question, effectivement. Le momentum de ces interpellations, justement, ne peuvent pas ne pas faire penser qu'il y a une dimension politique derrière ces interpellations, malheureusement. On ne peut pas ne pas voir, interpréter ou essayer de voir que derrière ces interpellations, il y a, se cachent des options politiques, se cachent des outputs politiques qu'il y a actuellement. On ne peut pas ne pas l'empêcher. Il est un fait que c'est en politique, ça veut dire grosso modo, n'importe quel fait, n'importe quelle décision qui va être prise dans le cadre de discussions actuelles de tout ce qui est en train de se passer actuellement au Congo, ces faits ont toujours ce qu'on appelle des outputs politiques, c'est-à-dire ont des conséquences politiques. Le fait d'interpeller l'honorable Jeannette Kabila a des outputs politiques, a des conséquences politiques. Le fait d'interpeller Chadari a des conséquences politiques. Et les autres aussi, c'est la même chose. Et donc on ne peut pas ne pas penser à ce momentum, surtout par le temps qui court où il y a les difficultés de cohabitation ou de coalition entre les différents partenaires actuellement. Et donc c'est dans ce sens-là que j'avais dit et expliqué tout à l'heure, que en sachant effectivement qu'il est important de pouvoir enlever ce qu'on appelle les épines, les possibilités d'avoir des épines entre les différents partenaires. Et lorsque vous évitez les épines, vous parvenez à pouvoir avoir des relations harmonieuses. Mais lorsque vous gardez les épines, n'importe quel fait qui va être posé par l'un ou par l'autre aura des outputs politiques, interprétations politiques, et ça va rajouter à la conflictualité actuelle, ça va même renforcer cette conflictualité. Et nous savons que nous sommes dans un pays qui n'est pas encore un pays sorti de la fragilité. Nous sommes encore avec un pays fragile. Et donc, n'importe quel fait, n'importe quel incident peut avoir des répercussions et peut avoir des conséquences non maîtrisables et qui peut à nouveau remettre le pays en état de conflit, voire même en état de guerre civile.
Oui, professeur, vous avez déjà commencé, n'est-ce pas, à évoquer, n'est-ce pas, ce que prévoit la loi congolaise au sujet de la détention du passeport diplomatique. Mais quelles sont les autres catégories, n'est-ce pas, qui sont concernées par la détention du passeport diplomatique?
Alors, il faut regarder en fait l'architecture institutionnelle de la RDC. Alors, vous devez prendre ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire, vous prenez le président de la République et avec l'exécutif au complet. L'exécutif au complet, c'est-à-dire les ministres et les vice-ministres qui sont détenteurs donc de ce droit de pouvoir disposer de ce passeport. Et à côté d'eux, on a élargi ça à leurs collaborateurs directs, notamment les directeurs de cabinet et les directeurs de cabinet adjoints. Et à côté donc de cette catégorie au niveau donc de l'exécutif, vous avez le législatif. Dans le législatif, là, vous avez deux chambres, la haute chambre qui est le Sénat et ainsi que l'Assemblée nationale, tous ont droit à des passeports diplomatiques. Et au niveau judiciaire, là, les hauts dirigeants, les hauts magistrats qui dirigent donc les différentes cours ont aussi droit à avoir ces passeports diplomatiques. Et aussi, au sein de l'armée, donc l'état-major de l'armée a droit aussi à avoir donc ce droit de disposer de ces passeports. Et on a élargi à d'autres catégories, comme les conseillers spéciaux, les conseillers principaux du chef de l'État, les conseillers du Premier ministre, etc. Et donc, toutes ces catégories-là ont droit d'avoir ces passeports. Mais ces passeports-là ne sont utilisés que dans le cadre de leur fonction.
Voilà.
C'est ça qu'il faut rappeler. Ça ne peut être utilisé que dans le cadre de leur fonction. Et que c'est pour ça qu'il y a un passeport diplomatique et un passeport ordinaire.
Lorsque alors,
vous
n'êtes
pas en fonction, vous utilisez votre passeport ordinaire.
Professeur.
Lorsque vous allez pour une mission, etc., vous utilisez votre passeport diplomatique.
Oui, professeur, vous ne pensez pas minimum. Professeur. Allô, professeur Bob Kabamba.
Je vous rappelle que tout le monde n'est pas au courant par rapport à ces différentes catégories. Il y a des personnes qui ont des passeports diplomatiques qui pensent que ces passeports diplomatiques est leur passeport à vie. Non.
Oui, professeur, parce que vous dites que tout le monde n'est pas au courant, vous dites qu'il faut rappeler, professeur Bob Kabamba, parce que vous dites que tout le monde n'est pas au courant, vous ne pensez pas que la leçon à tirer par rapport à la situation sous examen actuellement, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation, n'est-ce pas, par rapport à la détention du passeport par certaines personnalités, et à l'endroit, n'est-ce pas, de la population et de ceux-là qui détiennent, n'est-ce pas, ces passeports. Beaucoup de pédagogie et beaucoup de sensibilisation.
C'est une pédagogie indispensable. Ça ne veut pas dire que lorsque l'on prend un passeport, que l'on a droit et que c'est un droit qui vous est acquis à vie. Non. Il faut rappeler les règles. Même si on dit qu'on vous le dit lorsqu'on dit qu'on vous dépose le passeport, mais il y a beaucoup de gens qui ont des passeports diplomatiques, mais qui continuent à les utiliser sans avoir le droit. Et malheureusement, ces personnes-là ne savent pas que ces passeports-là ne peuvent plus être utilisés puisqu'ils ne sont plus en fonction.
Merci, professeur. Je considère ça comme votre conclusion, professeur Tchilumbaï. Votre conclusion, c'est quoi la leçon à tirer?
Non, j'ai dit à l'ambassadeur, à Alain, que ce n'est pas ça. Les passeports officiels sont introduits absolument avec un ordre d'émission ou une autorisation de sortie. Seulement que chez nous, le principe, c'est quoi? On ne peut pas aller soi-même avec un passeport officiel demander les visas. On passe par le ministère des Affaires étrangères qui s'en occupe.
Alors, la
note verbale n'est que le document par lequel le ministère des Affaires étrangères sollicite ce passeport-là.
Et la leçon à tirer.
Mais la conditionnalité, c'est ça. Non, la leçon, ce n'est pas la pédagogie. Mm-hmm. J'ai dit bien que toutes ces personnes détentrices de passeports officiels sont des personnes éminemment instruites et des personnes responsables.
Merci.
On n'a pas besoin d'une pédagogie pour ça. Il faut que ces personnes sachent que les fonctions sont terminées. Plus, on doit détenir les passeports officiels.
Monsieur l'ambassadeur, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que d'abord, la conditionnalité, c'est la note verbale. Vous ne pouvez pas avoir un passeport diplomatique et aller vous présenter avec un ordre de mission. Il faut une note verbale des affaires étrangères.
Merci, c'est la fin. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était la technique et à Donna Madimba et Kelly Kout qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi des programmes sur Radio Capi.